Richard Labévière, bonjour.
Bonjour.
À l'approche du 60e anniversaire de son indépendance, Madagascar multiplie les démarches pour ce que son gouvernement appelle la restitution des îles éparses au large de la Grande Île. Est-ce que cette revendication est fondée historiquement ?
Historiquement, elle est parfaitement fondée puisque la France a sorti du paquet de l'indépendance 2 jours avant l'indépendance les îles éparses, si bien que c'est une vieille revendication de Madagascar et il est clair que devant une cour arbitrale, la France, il y a fort à parier qu'elle perdrait cette confrontation, ça c'est clair. Cela dit, il y a d'autres solutions.
Oui, c'est-à-dire que les îles éparses étaient considérées jusqu'au 1er avril 60 comme des dépendances du territoire de Madagascar qui était alors une colonie. Hein.
Tout à fait. Et alors, ces îles qui sont dans le canal du Mozambique sont stratégiques à double titre pour des raisons de défense et de sécurité puisqu'on est sur un axe de trafic de drogue qui va du Pakistan jusqu'en Afrique du Sud et de manière plus transversale sur des flux de trafic d'êtres humains et sur des zones de pêche illégale où beaucoup de bateaux de pêche industrielle chinois notamment viennent racler les fonds, la crevette rose et sur les côtes du Mozambique de Madagascar, couper les arbres et le bois de rose, et voilà. Donc on est dans une zone qui réclamerait un minimum de coopération maritime.
Et vous dites qu'il y a une solution, c'est ça ?
Oui, il y a une solution, c'est-à-dire que la question, c'est pas ou le tout ou le rien, c'est pas 1-0 noir-blanc, c'est pas le fait de céder les îles éparses à Madagascar, étant entendu que sont à la manœuvre derrière la Chine, voire la Russie, mais aussi l'Afrique du Sud, qui essaie de pousser la France hors de la zone au nom d'une morale anticoloniale, alors que la possession des îles éparses françaises s'est fait surtout par les corsaires et les marins sans qu'elles soient rattachées à un passé colonial. La solution, elle est, justement, et le président Macron l'avait évoqué avec les autorités malgaches, c'est peut-être une coopération partagée sur, justement, la sauvegarde maritime dans cette zone et notamment la police des pêches. Or, la marine malgache ne dispose pas de moyens suffisants, des avisos, des patrouilleurs, des escorteurs pour faire la police des pêches et pour maintenir le droit international de la mer dans cette zone fortement criminogène.
La solution, ce serait peut-être sur le modèle de ce qui a failli être conclu entre la France et l'île Maurice il y a 10 ans au sujet d'une autre île de la sous-région qui est l'île Tromelin, c'est ça ?
Exactement. Le précédent entre Maurice et la France sur l'île au Tromelin peut faire jurisprudence d'une certaine façon et ce modèle pourrait être appliqué entre Madagascar et la France sur les éparses qui déboucherait sur un programme de coopération maritime pour justement faire la police des pêches et assurer la sauvegarde maritime et côtière de cette zone absolument stratégique.
Alors c'est vrai qu'il y a un an, les deux présidents français et malgaches se sont promis de parvenir à une solution commune d'ici vendredi prochain. Mais en octobre dernier, lors d'une visite sur l'une des îles éparses, Emmanuel Macron a déclaré « Ici c'est la France ». Et puis le mois dernier, sur RFI et France 24, Ange Radzoel a affirmé au contraire « Madagascar veut la restitution des îles éparses ». Est-ce que les deux positions ne sont pas irréconciliables ?
Non, mais disons que là, il y a de l'inflation verbale pour des raisons politiques. Et Joël, on a fait un dossier de politique intérieure essentiel pour lui, vu qu'il est confronté à d'autres problèmes et d'autres difficultés politiques. Donc une des solutions dans ces cas-là, sur le plan politique malgache interne, c'est bien évidemment de dériver sur une revendication nationaliste. Ça, sur le plan politique, c'est toujours très favorable pour l'opinion intérieure. Maintenant, il est certain que de toute façon, au-delà du fait de saisir une cour arbitrale ou de pousser la procédure à la Cour internationale de justice à La Haye, ce qui prendrait des années, il est clair que la raison et le pragmatisme voudraient qu'on puisse revenir à cette proposition de coopération de sauvegarde maritime et de police des pêches telle que l'a formulée le président Macron aux autorités malgaches et c'est ce que fait la Marine nationale avec beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, là aussi qui constitue un modèle, je dirais, dans la zone Corimbe qui va de Dakar à Libreville.
Avec les îles éparses, la France est souveraine, surtout le couloir central du canal du Mozambique. Or, ce détroit est réputé très riche en hydrocarbures, en gaz, en pétrole. Est-ce qu'on ne va pas inévitablement, dans les années qui viennent, vers une escalade pétrolière entre Antananarivo et Paris ?
Oui, ce sont effectivement ces enjeux d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole qui tendent qui durcissent le dossier. Et une fois encore, la Chine est à la manœuvre et la Chine a d'ores et déjà fait des propositions très précises aux autorités malgaches pour l'exploitation de ces gisements offshore de gaz et de pétrole.
Dans votre livre « Reconquérir par la mer », vous écrivez, Richard Labévière, que derrière le terrorisme djihadiste, la Chine représente la deuxième menace pour la France dans le monde. Est-ce que vous ne fantasmez pas un peu sur ce qu'on appelait il y a 50 ans le péril jaune ?
Oui, mais oui, effectivement. sans parler de péril jaune, il faut pas être naïf et il faut regarder derrière les routes de la soie. La Chine avance ses pions stratégiques. En 2017, le président Xi Jinping a inauguré la première base militaire chinoise à l'étranger à Djibouti avec une capacité de 10 000 hommes, une zone franche économique de plus de 50 hectares. Et donc, le concept chinois, c'est le civil d'abord et le militaire ensuite. Donc, on voit dans le sillage d'activités commerciales chinoises des fameuses routes de la soie et de leurs routes maritimes, on voit une hégémonie militaire très claire s'affirmer.
Ce que vous appelez la stratégie du collier de perles.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Méditerranée, on croise plus de frégates chinoises et turques que de bateaux militaires britanniques ou américains.
Vous écrivez que face à la Chine, la France baisse la garde, mais au contraire, est-ce que la présence militaire française à Djibouti, à Abu Dhabi, à La Réunion, ce n'est pas la preuve que la France maintient ses positions dans l'océan Indien?
Non, je ne dis pas que la France baisse la garde, mais il y a un danger en termes de moyens, parce que compte tenu d'une certaine austérité des budgets publics, pour assumer la gestion, la sûreté et la défense de l'espace maritime français, plus de 11 millions de kilomètres carrés, qui est le deuxième espace maritime au monde, eh bien, à un moment donné, il y a un point de rupture et il faut des bateaux, il faut des frégates de premier rang, il faut des porte-hélicoptères, il faut des porte-avions, il faut des sous-marins, il faut des moyens militaires pour défendre la souveraineté française sur ce deuxième domaine maritime du monde.
Et pensez-vous qu'il y a quelques jours, face à la marine turque, la marine française a manqué de moyens en Méditerranée?
Non, elle n'a pas manqué de moyens. L'incident qui s'est produit le 10 juin au large des côtes de Libye entre la frégate légère Le Courbet qui participait à une mission de surveillance de l'OTAN et deux frégates de premier rang, de frégates anti-aériennes turques, la France n'a pas manqué de moyens. Simplement, Le Courbet a été illuminé, comme on dit, c'est-à-dire ciblé radar. Ça correspond à un tir de première sommation. Le Courbet a décroché. Le Courbet s'apprêtait à essayer de contrôler un cargo turc qui amenait des armes en violation de l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Et donc là, la France n'a pas voulu entrer en confrontation avec la marine turque. Mais disons que c'est un rappel réel qu'aujourd'hui, la sécurité en Méditerranée, compte tenu des volontés hégémoniques de la Turquie sur l'Afrique du Nord, comme elle le fait en mer Rouge, en Asie centrale et sur la Corne de l'Afrique, il y a nécessité d'avoir des bateaux et des frégates de premier rang de la marine nationale pour assurer la liberté de navigation, le droit international maritime, et aussi pour essayer de casser les filières de migration clandestine et les trafics d'armes à destination de Libye.
Richard Labévière, merci.